ni trop sèche. Il y ajoutait ensuite safran, cannelle et jus de prunelle. Puis laissait le tout fermenter dans une jarre cachée dans un placard du laboratoire, auquel je n'en avais pas accès. Ce loc qu'il ne pouvait manquer de prendre soir et matin soignait un mal secret dont il ne parlait jamais, et qui, sans cet antidote, l'eût empêché de bien penser le jour et bien dormir la nuit. Il se leva en grimaçant et se rinça le visage au-dessus du récipient d'eau posé près de sa couche. Il secoua la tête énergiquement et frissonna. L'eau, chaque matin, était un peu plus glacée. L'hiver se montrait particulièrement rude cette année-là, et le feu que les serviteurs laissaient brûler toute la nuit dans l'ouvroir, en bas, peinait à maintenir quelque chaleur dans les pièces de la maison jusqu'à l'aube. Vivifié, il partit enfiler sa cape et sortit de sa chambre en grattant sur son menton les poils durs d'une barbe de 3 jours où la roue du temps venait coucher chaque année un peu plus de taches grises. La porte de la chambre que le jeune Jehan partageait avec Lambert et Marguerite, l'apothicaire ayant pris pour valet et chambrière un vieux couple de paysans, était grande ouverte. Sans doute ces 3 occupants s'étaient-ils déjà levés depuis longtemps pour préparer consciencieusement cette journée particulière. Comme chaque matin, ils avaient dû balayer et épousseter l'ouvroir, installer le montre et l'auvent à la fenêtre qui donnait sur la rue, laver et récurer la cuisine, aérer le laboratoire et disposer à lui la petite selle où Jehan passait la plus grande partie de ses journées pour accueillir le chaland et surveiller les petits brigands du quartier. Andrea s'imaginait déjà, avec déplaisir, l'excitation dans les yeux de son apprenti, dont l'impatience serait aussi légitime que contrariante. Il descendit les marches grinçantes de l'escalier, puis, à mi-étage, il s'arrêta brusquement devant une petite porte. Une petite porte de bois abîmée, vieillie. À cet instant, l'apothicaire fut saisi d'une impression troublante. Et c'est ainsi, sans qu'il pût d'emblée en prendre conscience, que tout bascula. Chapitre 3. Afin de dissiper tout mystère superflu, il convient ici d'expliquer au lecteur, qui pardonnera la digression nécessaire à l'historien que nous voulons être, comment il fut possible à Andreas Saint-Loup de jouir ainsi d'une maison de 2 étages au cœur même de la capitale. Et pour cela, nous devons revenir succinctement sur son passé, ou du moins sur les bribes que l'on pouvait en connaître. Abandonné à sa naissance dans une ruelle du quartier, l'enfant avait vu le jour en l'an 1274, précisément l'année où mourut Thomas d'Aquin. Un hasard que certains, sans doute poussés par une foi zélée en les analogies du destin, pouvaient voir comme un signe. Car toute sa vie durant, Andreas se passionna pour l'œuvre du Dominicain qu'il citait souvent, poussant alors des soupirs qui semblaient vouloir dire que son plus grand regret était de ne l'avoir point rencontré. Autant peut-être que de n'avoir pu un jour converser avec le docteur Mirabilis, Roger Bacon. Ce fut au sortir d'un office dominical, sur le parvis de l'église Saint-Gilles, que l'abbé Baudouin Boussel trouva dans un linge immaculé ce nourrisson à la peau mate et aux yeux sombres et qui ne pleurait pas. Comme cela se faisait en ce temps, le religieux amena à l'abbaye Saint-Magloire, qu'il dirigeait déjà à l'époque, cet enfant donné à Dieu, et se fit un devoir de l'élever non pas comme un fils, mais au moins comme un filleul. Puisque c'était un garçon, il le baptisa Andreas. Et quand il fallut lui trouver un nom de famille, Boussel opta pour Saint-Loup, en hommage à cet ancien et illustre évêque de la ville de Sens, dont il était lui-même originaire et qui était le saint protecteur des enfants. Élevé par les moines de l'abbaye, le jeune homme, qui avait fait la preuve d'une intelligence et d'une sagacité hors du commun, fut envoyé à la faculté des arts de l'Université de Paris, dans l'espoir de le faire entrer ensuite à la faculté de médecine. Mais pour une raison qu'il refusa d'expliquer même à son tuteur, Andreas abandonna soudain ses études, alors qu'il venait tout juste d'acquérir le titre de maître S.A.R., et décida de partir en pèlerinage à Compostelle, où il resta 7 longues années, et où, dit-on, il a pris le métier d'apothicaire. Un jour de l'an 1304, ce fut donc un homme mûr de 30 ans que Paris vit revenir enfin, tout auréolé de mystère. Fort de son apprentissage et jouissant de quelques fortunes ramenées